et voilà. T'as le son en sortie sur ton ordi quand même, hein? T'as le son en sortie.
Ah, oui, d'accord. Je peux le mettre sur le...
Ouais, parce que théoriquement, il y a le solo si Christophe veut parler. Christophe, tu nous entends là?
Là, je vous entends. Oui,
Attends,
je vous entends.
il me
Ouais,
répond
c'est...
ici, je vais le mettre sur le HDMI. Ok, on est tous là, c'est bon. Oui, j'ai pas fait aux
On n'a
hier.
pas de crédit.
Ouais, exactement. On y viendra, ça, je pense.
Pourquoi je ne reconnais pas le HTML?
Tu n'as pas?
Non. Je comprends pas. Je pense pas que tu peux ça.
On
Je
verra
crois pas,
sinon.
mais... Ok.
Impeccable. Mais je te laisse.
Ok, bonjour à tous. Donc, on va démarrer cette journée avec une présentation sur l'environnement particulier. C'est un projet que je mène depuis une petite dizaine d'années maintenant. Il s'agit de développer des systèmes robotiques pour aller explorer un environnement confiné, subaquatique et non structuré, qu'est le karst. On va passer un petit moment pour voir ce que c'est que le karst. On va montrer des karsts un peu emblématiques. Et ensuite, on va décliner les contraintes que ça représente et les solutions robotiques qu'il va falloir développer pour faciliter cette exploration. Donc, on est vraiment dans la robotique d'exploration parce que ces karsts ne sont visités que dans la partie supérieure, pour l'instant par les humains. On va voir tout ça. Donc, une première définition, donc ce qu'on appelle les karsts, ce sont ces réseaux de grottes souterraines. Qui sont issus de la dissolution des plateaux calcaires, des marbres, par les eaux de pluie. Alors, il y a deux types de karstogénèse pour l'instant qu'on a identifié. La première, assez classique, donc c'est l'eau qui coule, qui se charge de CO2 au contact de la végétation et à la traversée de l'humus pour produire de l'acide carbonique qui va ensuite réagir avec le tous les calcaires, etc., pour produire de la calcite qui est soluble dans l'eau. Et donc, tous ces minéraux-là vont partir avec les écoulements, créer ces fissures qui ensuite, par érosion successive, vont créer ces galeries et l'eau va circuler dedans, etc. Ça, c'est des processus très longs, hein, donc c'est à l'échelle géologique. Mais de récents travaux montrent qu'il y a un autre phénomène de karstification, qui est la fantomisation de la roche, où là, on va avoir des phénomènes de dissolution à nouveau, mais de certains éléments de la roche. Et la roche va rester en structure, va rester en place, mais va se fragiliser, va devenir poreuse. Et sur des phénomènes pluviométriques intenses, il va y avoir des phénomènes de chasse qui vont d'un seul coup vider des galeries et créer des galeries éventuellement sur plusieurs centaines de mètres. L'étendue de cette fantomisation, là, c'est encore le sujet de recherche actuelle. Mais on peut avoir des phénomènes géologiques très très lents et des phénomènes très très rapides sur la création de ces karsts. Ça, c'est assez nouveau, c'est les travaux de nos collègues montpelliérains là-dessus. Donc, pour vous montrer ce que ce sont ces karsts et ce en quoi ils sont remarquables, donc je vous ai mis quelques cas extrêmes de karsts. Voici la grotte la plus grande qui a été découverte. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle a été découverte en 2010. On continue à découvrir des choses monumentales, sous terre. Donc, c'est une grotte qui fait 400 mètres de haut sur 300 mètres d'ouverture. C'est vraiment gigantesque. C'est au Vietnam. Et cette grotte se poursuit ensuite par une gigantesque rivière souterraine qui poursuit sur 8 km, ouais, pour ensuite continuer, mais en sous-marin, enfin, en subaquatique. Et on a des réseaux comme ça qui vont courir sur des centaines de kilomètres, bien sûr inconnus pour l'instant, à part pour certains, et notamment au Mexique, où ils sont arrivés à connecter plusieurs réseaux ensemble, et ils ont identifié des réseaux gigantesques qui courent sur plus de 600 km. Donc voilà, c'est tous ces environnements-là qui sont difficiles d'accès. Là, c'est le gouffre le plus profond connu, et qui descend sur 2000 mètres. En 2018, il y a une histoire absolument hallucinante de spéléos qui ont dû remonter parce qu'il y avait, il y avait des pluies importantes et qui ont rempli le gouffre. Et ça a été sur plusieurs jours de course contre la remontée des eaux, qui s'est bien finie cette fois-ci. Mais en 2018, là, il y a toute cette histoire de ce sauvetage-là qui était vraiment incroyable. Mais ils s'en sont sortis. D'autres phénomènes un peu étranges, je suppose que vous connaissez cette grotte, la grotte des Cristals au Mexique. C'est une grotte dans laquelle il fait 58 degrés avec 100% d'humidité. Et ça permet la croissance de ces cristaux de sélénite. Il y a d'autres grottes comme ça, mais jamais avec des cristaux aussi grands que ceux-ci. Et donc ça aussi, ça fait partie des merveilles du monde souterrain et complètement inattendu qu'on va découvrir. Ça aussi, ça a été découvert en 2000. Toutes ces découvertes sont assez récentes en fait. Et donc c'est vraiment un milieu qui est en constante exploration. Et bon, ça, c'est autre chose. Là, on est sur la vie cavernicole avec cette espèce de d'abeilles qui est luminescente et qui va permettre ça va lui permettre d'attraper ses proies dans ces environnements-là. Mais c'est ça, c'est pour souligner qu'il y a de la vie dans ces environnements-là. Elle est rare, donc fragile, et toutes les méthodes qu'on va employer doivent être testées pour voir l'incidence que ça va avoir sur cette vie cavernicole. On va retrouver des crustacés, on va retrouver des escargots, des axolotes. Et ce type d'insectes peu surprenants. Alors voici le plus grand réseau karstique connu. Là, on est au Mexique, avec un réseau, comme je le disais tout à l'heure, qui s'étend sur 600 km. Et voyez la difficulté et le changement d'ambiance de ces milieux-là. On va retrouver des grands vides karstiques, des grandes caves comme ça. Va falloir éventuellement mapper, dans laquelle il va falloir se retrouver. Et puis des étroitures, des tunnels, enfin on va avoir toute une diversité d'environnements qui va faire que non seulement il va falloir, lorsqu'on va envisager la robotique adaptée, les capteurs sur le robot, mais aussi toutes les stratégies de navigation à ces environnements extrêmement changeants, dans la mesure qu'on s'y balade. Donc le record de plongée, et là on a atteint les limites physiologiques. Donc là, ce plongeur-là est descendu à moins 308 mètres. C'est un plongeur français là, qui bosse à Nice, dans les environs de Nice. Et lui, alors, tout ça sont des plongeurs amateurs, en fait, hein, bien sûr. Hein. Et là, c'est le record de plongée à moins 308 mètres, Testramar, dans les Pyrénées, dans les PO. Là, on atteint les limites. Là, c'est extrêmement engagé. Dès qu'on dépasse les 100 mètres de profondeur, c'est une plongée qui est extrêmement engagée Faut pas le faire par des humains. C'est pas raisonnable. Maintenant, quand ce sont des sportifs qui veulent établir des records, ils prennent leurs responsabilités. Enfin bon, lui, il embarque quand même une dizaine de plongeurs qui descendent aussi à plus de centaines de mètres. C'est très très risqué ce genre de.
Donc, il a passé 11 heures là, pour monter les paliers, tout ça. Il faut avoir envie.
Oui, c'est 11 heures de plongée.
Ouais.
11 heures de plongée, mais quelques secondes à moins de 300 mètres, bien sûr.
Mmh.
C'est des heures dans une cloche de décompression qui a été installée au préalable. C'est non seulement dangereux, mais c'est des plongées très lourdes en termes logistiques. Donc voilà, ces karsts-là, le principal intérêt, c'est le réservoir d'eau souterraine qu'ils représentent. C'est que dans ces karsts, on estime qu'il y a. Alors déjà, il y a 25% de la population mondiale qui vit de ces eaux-là, d'accord, qui utilise ces eaux souterraines. Qui ne sont pas obligatoirement karstiques, hein, mais dans les plateaux calcaires, c'est une habitude que d'aller chercher cette eau souterraine, parce qu'elle est d'une très très bonne qualité. Tout le processus d'infiltration filtre les eaux de pluie et on se retrouve avec une eau d'extrêmement bonne qualité. Et donc, aller l'exploiter, ça peut être. C'est tentant, mais il faut comprendre la dynamique de la ressource que ça représente. C'est l'intérêt de. Les travaux que je mène. Bien sûr, tout le monde a entendu parler de cette crise de l'eau globale. Hein. Donc, c'est une ressource qui se raréfie, pas obligatoirement la ressource en eau, mais la ressource exploitable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressources polluées qui ne le sont plus. Et les dernières analyses qu'on a faites, y compris sur les karsts profonds, montrent des pollutions très très profondes. On retrouve des microplastiques jusqu'à 100-200 mètres sous terre. Ça y est, les microplastiques sont partout. On retrouve aussi dans les sédiments de ces réseaux-là des concentrations très étonnantes de molécules de paracétamol. C'est un médicament qu'on prend tous dès qu'on a mal à la tête et qui se retrouve dans les sédiments de tous les, de tous ces réseaux-là. Donc, bien sûr, cette crise-là inquiète ben, partout hein, dans le monde, hein, tout le bassin méditerranéen, qui lui est intégralement karstique, et ça s'explique sur, ça s'explique par deux phénomènes géologiques qui ont vu le détroit de Gibraltar se fermer et la mer Méditerranée s'assécher. C'est-à-dire que le processus de karstification a pu se faire très profondément du fait que la mer Méditerranée était 1500 mètres plus bas que son niveau actuel. Et donc, on a des karsts dont on estime qu'ils peuvent descendre jusqu'à 2000 mètres sous les, sous la surface. Et tout ça est plein d'eau. Alors bien sûr, à partir d'une certaine profondeur, l'eau devient salée parce qu'elle va être en communication avec la mer. Mais notamment de dernières plongées à la source Saint-Antoine à Toulon, source qu'ils vont réouvrir à l'exploitation, parce qu'ils ont des problèmes d'alimentation dans la ville, hein, montrent que les dernières plongées ont mené les spéléos à une centaine de mètres en dessous du niveau de la mer, en direction de la mer. Et on sait qu'il y a une communication et l'eau était toujours douce. Il y a une pression hydrostatique de cette eau douce qui repousse l'eau salée. Alors, faut-il l'exploiter pour faire remonter le biseau salin, etc. Je ne sais pas, tout ça, c'est des problèmes de décision politique. Mais il faut éclairer ces décisions-là par des données de terrain. C'est tout le, tout l'enjeu de ces travaux. Alors, cette crise de l'eau engendre bien sûr d'autres problèmes. D'autres problèmes. Alors, c'est devenu une arme de guerre dans différents conflits. On le voit malheureusement un petit peu partout dans tous les conflits actuels. Et surtout, il y a une dimension géopolitique importante, c'est que ces aquifères parfois sont transfrontaliers et on va se disputer cette eau souterraine alors qu'elle circule en ignorant bien volontiers les frontières que les humains ont créées. Et donc ces aquifères qui sont transfrontaliers sont à l'origine de conflits, je dis, enfin, à l'origine, aggravent certains conflits. Notamment autour du Jourdain, où il y a eu des barrages de construits qui fait que l'eau de surface n'est plus vraiment accessible, du moins plus vraiment d'une qualité suffisante. Mais que se passe-t-il dessous? On sait qu'il y a un réseau karstique plus profond, mais qu'on ne connaît pas, on ne l'a pas exploré. Bon, déjà, il y a un problème d'accessibilité, hein. Là aussi, la Turquie qui assèche les territoires kurdes par des constructions de barrages pour mettre une pression politique sur, géopolitique sur cette région-là. Et ça, on le retrouve partout de par le monde. Donc, cette question de l'étude de la dynamique et de l'accessibilité de cette ressource-là va bien au-delà de la question de l'accès à l'eau potable. Autre impact aussi, c'est que ces karsts profonds sont parfois le jeu de transferts de masses d'eau importantes qu'on ne voit pas depuis la surface. Et donc, il y a des phénomènes de crue soudaine. On peut imaginer, par exemple, dans le cas des épisodes cévenols, où on va avoir dans un bassin versant une pluie importante qui va se déverser sur les hauts plateaux de l'Hérault. Et d'un seul coup, on va avoir une montée des eaux dans un endroit où il ne pleut pas. Ben oui, mais c'est que c'est le karst qui s'est rempli et qui est allé déverser ailleurs. Et donc, toutes ces liaisons de réseau karstique et de mise en contact de ces masses d'eau, c'est aussi quelque chose, non seulement qu'il faut comprendre pour prévoir l'émergence de crues et pas installer des bâtiments critiques, des infrastructures critiques dans ces régions-là, mais aussi faire de la construction souterraine, faire des barrages pour commencer à aiguiller cette eau lorsque ça se déverse. Mais il y a aussi un autre phénomène, pardon, un autre intérêt à ce karst. C'est d'utiliser le karst comme barrage écrêteur de crue. Imaginez qu'on ait des systèmes de pompage répartis sur un bassin versant qui puissent vider le karst juste avant un épisode pluviométrique important. Eh bien, au moment de la crue, on peut imaginer que le remplissage, tout ce volume-là qu'on aura libéré au préalable, permet de casser le puits de crue. Parce que ce qui est dévastateur là-dedans, bon, bien sûr, c'est la montée des eaux, mais c'est aussi ces phénomènes de vagues qui se produisent et qui ravagent les villes. Et ça, c'est le pic de crue. Et on pourrait arriver à casser ce phénomène-là en se servant du karst comme réservoir pour absorber le pic, ce pic de crue. Donc voilà, ce karst-là, si on veut s'y balader, ben, il faut faire comme fait ce plongeur, arriver à naviguer de façon sûre dans cet environnement-là. Alors, en robotique mobile, sous-marine en particulier, on fait en général la distinction entre les capteurs d'émission et les capteurs de navigation. Les capteurs de navigation, c'est ce qui va vous permettre de reconstruire la trajectoire du système. Les capteurs d'émission, c'est ce qui va vous permettre d'échantillonner le phénomène que vous allez chercher dans l'environnement. Donc ici, par exemple, faire la cartographie, c'est ce qu'on va aller chercher. C'est une des choses qu'on va aller chercher en dehors de l'analyse de l'eau, de qu'on peut faire l'analyse géochimique de l'eau qu'on va pouvoir faire en ligne. Mais cette géomorphologie, ça va être le livrable de la mission, on pourrait dire ça. Sauf que ce livrable-là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir fournir après la mission, mais ce sont des données qu'il va falloir exploiter en cours de mission. Pour assurer que le système puisse se balader là-dedans, il va falloir qu'il se centre dans cette espèce de conduit irrégulier, qu'il évite les obstacles. Et vous allez voir que c'est très chaotique, ces environnements-là. Donc, ces capteurs d'émission, il va falloir les intégrer dans la boucle de commande. Donc, ça veut dire traiter les capteurs, ça veut dire traiter la donnée, fabriquer les modèles, naviguer dans ces modèles, planifier les trajectoires, etc. Tout ça avec des capacités calculatoires embarquées. Bon, on va voir qu'on peut avoir des stratégies qui nous permettent d'avoir accès à des volumes de calcul plus performants. Mais tout ça, ensuite, il va falloir l'exploiter dans la boucle de contrôle, à la fréquence de la boucle de commande. Donc la question de la fabrication des modèles, de leur simplification, sans pour autant perdre les aspects essentiels de l'environnement, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc les contraintes, les principales contraintes, ben, la première qu'on va, c'est pas évident, c'est qu'on n'aura pas de GPS dessous. Donc pour tout ce qui est cartographie géoréférencée, on ne pourra pas avoir accès à ces moyens bien pratiques que sont le GPS. Par contre, il existe un système magnétique qui permet, lorsqu'on va installer une bobine, en gros aimant, on va dire, dans une grotte, on a les moyens, en surface, au prix quand même d'une logistique assez lourde, de venir localiser cet artefact magnétique qu'on va arriver à localiser sur la distribution magnétique terrestre. Et, pardon?
Est-ce qu'il y a des environnements qui permettraient à détecter ces éléments?
Ouais, l'eau salée, c'est problématique. On perd énormément en range, en distance de fonctionnement. Mais bon, là, on atteint, dans le meilleur des cas, 100, 200, 300 mètres, quoi. On est bien en deçà de ce qui serait nécessaire. Mais par contre, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc là, c'est Luc Rossi qui développe le Dirac, avec qui on bosse là-dessus. Ça fonctionne assez bien, mais tout ça, il faut le mariniser, surtout tout ce système-là. Embarquer un système-là sur un capteur qui a un système, une centrale inertielle, toutes les perturbations que ça va générer, etc. Voilà, il y a tout un ensemble de problématiques à l'intégration de ce système-là sur un robot autonome qu'il faut traiter. Mais il y a les moyens de localiser ce système-là. En plus, la problématique, c'est qu'il faut qu'on fasse plusieurs mesures en surface, et donc il faut que la surface soit accessible. Ce qui, dans des régions montagneuses, peut être difficile. Donc il y a tout un intérêt à pouvoir monter ces instruments de mesure sur des drones. Sauf que là se pose le problème du retrait de la perturbation magnétique générée par les moteurs des drones de la mesure. Ce qui n'est pas impossible. Il y a eu des essais de fait, notamment par Vinci, sur ces questions-là, et il y a des solutions qui commencent à émerger. Donc, pas de GPS. Câble ou pas câble, on aimerait bien avoir un câble qui permette de téléopérer le système et de prendre des décisions, voilà, de garder l'humain dans la boucle, mais vous voyez le câble dans ces environnements. Donc, vous voyez que le problème que ça génère. Il y a une histoire fantastique autour de la fontaine de Vaucluse où ils ont perdu un premier robot. Ils ont envoyé un deuxième robot qui s'est pris dans le câble du premier, pour sauver le premier robot. Ils ont envoyé un troisième robot pour aller chercher tout ça, ils l'ont perdu. Ils ont fini par envoyer des plongeurs pour dégager le gouffre, quoi.
Ça peut permettre de plonger sur ça.
Mais
Finalement, comme
voilà,
vidéo,
c'est
ça peut pas
complètement
dans le cas, c'est ça.
Donc, câble ou pas câble, c'est vraiment une question fondamentale. Surtout que dans ces environnements-là, surtout durant la phase d'exploitation, on ne va pas embarquer un système expert qui va remplacer l'analyse de l'hydrogéologue. Il nous faut un câble pour envoyer l'info à l'hydrogéologue, pour savoir ce qu'il faut faire, ce qui est intéressant de voir, etc. Pas rater des régions d'intérêt que l'hydrogéologue verra. Donc, à l'aller, il nous faut le câble, c'est la stratégie qu'on va suivre. Autre question fondamentale aussi, la vision, c'est bien pratique. Dans ces environnements-là, on pourrait imaginer, on le verra dans d'autres images, il y a des solutions visuelles qui sont vachement intéressantes, mais voilà. On ne peut pas garantir que l'eau reste claire. Et dans cette turbidité-là, toutes les solutions visuelles. Donc, sur le long terme, la solution visuelle n'est pas une bonne idée. Il nous faut une solution acoustique. Mais ponctuellement, lorsqu'on peut s'en servir, il ne faut pas l'ignorer. C'est quand même des capteurs qui fournissent une information dense, sont pas chers, ce serait dommage de s'en passer. Et enfin, tout le problème de la complexité de cet environnement-là, vous voyez, c'est stalactites et ces stalactites, ces colonnes karstiques qui vont se créer, il faut arriver à naviguer là-dedans. Alors, ce qui est curieux dans ces environnements-là, c'est que si ces colonnes existent, c'est que cet environnement a été sec à un moment donné. Et pourtant, il se retrouve à plusieurs centaines de mètres de fond, plein d'eau. Très, très curieux. Donc voilà, cette diversité d'environnements, il va falloir y faire face, arriver à trouver une charge. Ouais.
T'as pas le changement de milieu? Tu pourrais, je sais pas, localement la mettre sur une petite plage pour replonger de l'autre côté. Enfin,
Alors,
il y a
tu
toujours une
peux.
continuité d'eau.
Non, tu peux avoir des sorties, mais c'est problématique.
Ok.
C'est problématique d'imaginer un robot qui puisse naviguer dans ce contexte-là. Sortir, ramper sur ces environnements complètement chaotiques. Et ce n'est pas que pour les robots d'ailleurs. Les plongeurs spéléo se blessent beaucoup plus souvent lorsqu'ils doivent sortir de l'eau avec tout leur matos. C'est là où ils vont se faire une cheville, c'est là où ils vont avoir des soucis. Donc voilà, parmi toutes ces contraintes-là, il y en a d'autres bien évidemment, mais voici la stratégie qu'on envisage d'employer. Donc, on a un câble qu'on va. Imaginez qu'on est en train de visiter ce conduit de gauche à droite. Donc, l'idée, c'est d'injecter le robot avec son câble, robot qui embarque le trancaneur, c'est-à-dire qu'il dépose lui-même son câble. On ne va pas tirer sur le câble sur des kilomètres. Dans ces environnements-là, ce n'est pas possible. Donc, le robot dépose son câble au fur et à mesure qu'il visite l'environnement, utilise ses capteurs pour dresser la cartographie de l'environnement. Et en fin de mission ou en fin de câble, il faut se séparer de ce câble-là et naviguer dans l'environnement qu'on a construit pour rentrer et pour finir la mission.
Le câble, tu le retires après ou tu le
Non,
mets
on ne
sur
peut pas. On ne peut pas. En termes d'impact sur l'environnement, c'est la limite de
D'accord.
l'approche.
En gros, tu le coupes pour ne pas générer de coup.
Mais maintenant, vu qu'il est en place, parce que l'idéal, ce serait de le couper et de l'ancrer, quelque part, pour pouvoir l'exploiter ensuite pour le retour, pour s'en servir de fil d'Ariane. On va voir les solutions qu'on a envisagées. Mais aussi pour s'en servir pour une nouvelle visite. Voir, essayer de faire en sorte qu'un robot, le câble étant en place, ça va faciliter sa deuxième visite, arrive au bout, puis se rebrancher au câble et puis continuer. Ça aussi. Technologiquement, il y a des emmerdes. C'est un emmerde, on le sait, mais ce serait des choses qui faciliteraient l'exploration. Et oui.
Et pourquoi ne pas le rouler?
Le renrouler retour, il t'empêche pas qu'il se coince. Dans deux infractuosités, tu vas tirer dessus, et dès que tu tires dessus et qu'il est pris dans une infractuosité du car, tu vas le coincer. Et là, si tu ne peux pas t'en libérer, tu perds le robot. Donc la seule solution qui soit robuste à ça, c'est de se séparer du câble et de naviguer dans la carte qu'on a construite à la ligne. C'est la stratégie qu'on suit. Et bien sûr, entre-temps, essayer de réfléchir à des charges acoustiques, à des capteurs qui soient particulièrement adaptés à ce contexte-là. C'est ce que je vais présenter maintenant.
C'est vraiment la seule solution pour la communication en câble.
Oui, parce
La fibre.
que si tu fais de la communication sans fil en acoustique, hein, si tu montes en fréquence, tu ne vas pas porter assez loin. Maintenant, il faut quand même voir que dans ce conduit-là, on pourrait imaginer que cette veine d'eau génère un canal acoustique. Donc, on pourrait exploiter ça. Et on va l'exploiter d'ailleurs dans l'idée. Sauf qu'on est en acoustique, donc en faible fréquence. Et donc, en faible fréquence, on a des débits très faibles. Donc, on peut faire un monitoring lointain pour voir comment ça se passe, éventuellement avoir la position du robot, mais la téléopération et le renvoi d'image, c'est pas envisageable, sans câble.
ça veut dire que tu le suis quand à l'aller, mais au retour, tu n'as
Tu le
aucun.
déposes à l'aller.
Oui, mais je veux dire, à distance, tu sais ce qui se passe sur ton robot à l'aller tant qu'il est sur le câble. Et au retour, par contre, tu n'as
Non, il est.
aucun retour sur ce qu'il fait.
On va avoir du retour par le câble, justement. On va pouvoir communiquer via ce câble sans y être attaché. Ouais. On va faire. Je vais vous le présenter par la suite. Mais au retour, l'idée, c'est qu'il soit complètement autonome.
Non, mais on communique quand même, alors.
On communique quand on peut. C'est ça le truc. Bien sûr, si on a une solution, ou même à l'aller, il peut être complètement autonome sans câble, il ne faut pas s'en passer. Mais pour l'instant, on n'a pas la techno, quoi. On ne sait pas encore faire. Donc, parmi. Alors, je ne vais pas tout citer, mais ça, ce sont la liste des problématiques robotiques sur la gauche jusqu'à ici, plus technologique et économique, parce qu'il y a aussi tout un marché là autour de ça. On a créé deux spin-offs autour de ça pour justement réaliser voilà, pour monter des boîtes autour de ces questions-là, de visite des sources karstiques de certaines municipalités. Enfin, il y a vraiment un marché autour de ça. Mais il y a surtout ce qui nous intéresse, nous, c'est les nouveaux capteurs, c'est les problématiques de navigation, de guidage, de contrôle, de construction de modèles, etc., avec les contraintes que j'ai mentionnées au préalable. Donc, parmi les choses que je voulais vous présenter, ces nouveaux capteurs qu'on envisage pertinents dans ce contexte-là, c'est essayer de doter le système d'une peau acoustique, c'est-à-dire d'imaginer avoir des récepteurs acoustiques sur l'ensemble de la peau du robot à 360 degrés, qui puisse être acoustiquement sensible à ça, insonifier l'environnement et que lui puisse écouter d'où vient le son qu'on aura émis, pour avoir une espèce de sensation acoustique de son environnement, pour qu'il puisse se centrer, pour qu'il puisse cartographier, etc. Ça, on a fait quelques essais, c'était assez intéressant. Pour l'instant, ce point-là est un peu en sommeil. Mais on va peut-être relancer l'idée avec de nouveaux collègues.
C'est une traduction de la ceinture de l'ultrasonde de la voiture.
Ouais, c'est ça.
Donc tu crées du bruit et tu partout, tu
Tu
récupères.
insonifies, alors soit tu insonifies par région, dans des directions données, et tu écoutes. D'où revient le son? Et en calculant des distances de voix. En calculant des distances de vol ou en traitant d'un problème inverse sur les échos secondaires, tu peux arriver à avoir une idée de ce qui t'entoure.
Ouais, c'est vrai que j'imagine que ça doit être hyper compliqué parce que toutes les réflexions sur toutes ces surfaces, une propagation qui est très longue, enfin, qui est très.
D'où le fait de ne pouvoir traiter cette question-là qu'avec des cellules acoustiques sur lesquelles on peut tout paramétrer. Et la puissance et la fréquence. Et ça, les solutions du commerce ne le permettent pas encore. Du moins, on n'a pas identifié des solutions low cost qui nous permettent d'attaquer ça. Mais il faut chuchoter dans le car, sinon on est sensible au multi-chemin. Et puis, de suite, on sature tout, quoi. C'est les premiers essais qu'on avait fait avec un DVL qui n'était pas adapté ont montré que notre DVL hurlait partout et puis on perdait 80% des données. Enfin, on aurait dû le savoir avant. On a fait toujours. Plus d'expérience. Le câble actif, ça aussi, donc vous avez compris que ce câble, dans notre stratégie, reste en place. Donc, si on peut arriver à faire rayonner ce câble et que le système peut se situer par rapport à ce câble, eh bien, ça y est, on a réalisé notre fil d'Ariane. C'est l'idée. Mais on pourrait aussi utiliser ce câble. Alors, déjà, lorsqu'on le dépose, on peut toujours mettre un codeur sur le tronconeur pour savoir la longueur de câble qu'on a déposé. Ça nous sert de métrique, dans un sens. Mais dans l'autre, ça pourrait être intéressant aussi de savoir où on se situe par rapport au debout du câble. Alors là, il y avait plusieurs approches. La première approche qui était sympa, c'était de se dire, on va injecter une sinusoïde, on va entretenir une sinusoïde dans le câble, et ensuite, on va mesurer les ventres et les creux. Et comme ça, en fonction de la fréquence, on va pouvoir avancer à cette métrique-là, à la métrique de la longueur d'onde du câble, du signal. Et on aura une idée de ce qui se passe, de la façon avec laquelle on progresse. Alors, c'était une bonne idée, sauf que les câbles sur lesquels on a pu tester ça avaient des spits qui les ancraient dans l'environnement. Et chaque fois, ça créait un condensateur parasite qui faisait qu'on avait une atténuation de 20 dB par décade. C'était clair. Donc, au bout de quelques mètres, ou de quelques dizaines de mètres, on n'avait plus de signal, on ne captait plus. Donc, il faudrait descendre en fréquence pour diminuer ce phénomène-là, mais du coup, descendre en fréquence fait des longueurs d'onde très grandes qui font qu'on n'a pas la finesse de métrique suffisante pour calculer le pansement du système. Donc, la solution n'était pas bonne, on est passé à autre chose. Maintenant, Le fait de faire rayonner ce câble nous permet quand même d'imaginer pouvoir transmettre de l'information. Si le robot est sensible au rayonnement du câble, on peut transmettre de l'information vers le robot, mais le robot lui aussi peut émettre une onde radio et le câble va servir de guide d'onde. Voire émettre un burst, c'est l'idée. Le robot, à l'endroit où il est, émet un burst, le câble sert de guide d'onde, on mesure les temps de vol, et en particulier en direction de du bout du câble qui est en surface, avec une électronique qui, dès qu'elle reçoit le burst, répond, et le robot peut mesurer du temps de vol dans le câble et savoir où il est par rapport au bout du câble. Ça, c'est encore sur le papier, on y travaille, mais ça devrait être vachement intéressant.
Le câble, c'est des fibres optiques.
Non, du coup, c'est du cuivre.
En fibre optique, il y a des techniques de mesure avec la rétropropagation
Oui,
des
mais
ondes.
tu es obligé d'être au bout
Ouais, mais du
pour
coup,
aller
et
choper une
ça
rupture.
pourrait durer. Ouais, pour faire rien.
Je ne sais pas comment changer l'impédance optique localement pour avoir un retour de.
Oui, le retour, effectivement, c'est ce problème.
Ça, je ne sais pas.
Pour localiser le robot depuis la surface.
Ben oui, mais il faudrait que le robot puisse intervenir localement sur le câble, puisse modifier une des propriétés du câble.
Ah oui. Non,
Et
je
ça.
pense que tu peux écouter du bruit. S'il y a une source de bruit autour de la fibre optique, tu peux localiser
C'est
et
vrai,
scanner
c'est
le.
vrai. Ces câbles sous-marins là, qui arrivent à localiser des bateaux qui y sont. Certainement, certainement. Oui. Alors ça nous arrangerait vachement parce que des bobines de fibre optique très très minces de 35 km qui rentrent dans une bouteille de coca, ça nous intéresse vachement. Parce que dès qu'on est sur plusieurs kilomètres de cuivre, là, ça devient des monstres qu'on ne peut pas imaginer embarquer dans un robot. Donc toute solution optique serait la bienvenue là-dessus. Ouais.
Des fibres optiques à réseau de mag qui permettent de mesurer des différences de température, des différences de contraintes aussi sur la fibre optique. Et par exemple, ils testent ça, je crois, le long de certains rails de train.
OK.
Ils arrivent à mesurer comme ça,
Quand le train passe.
bah, ou même l'état des rails,
OK.
déformation, température, etc. Donc on pourrait imaginer que le robot
Ouais,
devait
il y a
appuyer
certainement
sur.
encore, sur cette question du câble, il y a certainement encore beaucoup de choses à creuser. Et c'est sûr que tout ce qui ira vers une solution optique sera. Parce que vous avez compris que vu qu'on se sépare du câble, on ne transmet pas l'énergie. Donc tout ce qui sera optique sera bienvenu, quoi. Une autre approche, c'est d'exploiter le sens électrique avec les partenaires de Nantes. Les collègues de Nantes qui travaillent là-dessus, vous voyez ce que c'est ce sens électrique? C'est des poissons électriques qui arrivent à vivre dans des environnements extrêmement turbides. Et la reproduction de ce sens-là fait qu'on va imaginer un robot un peu long, il va agir comme un dipôle entre la tête et la queue, et on va générer un champ électrique autour du robot. Et tous les objets présentant un contraste résistif dans ce champ électrique vont venir modifier ces lignes de champ. Donc, si le robot est en mesure d'avoir des capteurs sur toute sa peau et il est en mesure de mesurer ses lignes de champ et qu'il est en mesure de les suivre, alors il évite les obstacles. Et ça, ce serait une solution particulièrement élégante dans cet environnement confiné où l'environnement va répondre de toutes parts. Et puis, là où c'est génial, c'est que sur le papier, pour l'instant, a priori, on n'aurait pas de question de planification au même titre que celle qu'on a quand il faut dresser un modèle, reconstruire le modèle, planifier le chemin là-dedans pour se centrer, etc. Là, c'est une espèce de. Là, c'est de la physical intelligence. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme-là, par opposition à l'artificial intelligence. C'est la physical intelligence où on va exploiter un phénomène physique pour guider un système à venir échantillonner des choses intéressantes. Et j'aime beaucoup cette approche-là. On y travaille. On a une ANR là-dessus et sur lequel, justement. Mirado travaille, Mirado qui présentera la présentation juste après. Autre idée qu'on a, qui reprend cette idée de la sinusoïde entretenue dans le câble, alors ça c'est Benoît Zer qui à un moment donné a fait tilt, m'a renvoyé ça et je dis mais c'est génial, est-ce que ça fonctionne? Alors je suis allé voir Michel Legris, il dit mais est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Pour lui ça va fonctionner, donc nos collègues référents acousticiens pensent que ça va fonctionner. Donc imaginez que ceci est une grotte karstique au début de laquelle on entretient une sinusoïde qui va se balader dans basse fréquence pour qu'elle porte assez loin. Bien sûr, toutes les réflexions de l'environnement vont faire que tout ça va rebondir et va créer un réseau d'interférences dont on va a priori considérer que c'est un invariant de l'environnement. Il va y avoir des ventres, il va y avoir des creux en 3D, hein, d'accord? Mais ce qui fait que le robot muni d'un microphone, dans la mesure où il sait se centrer, etc., il sait assurer sa propre sécurité, va pouvoir mesurer les ventres et les creux qu'il va avoir sur son passage. Et si c'est un invariant de l'environnement, il va pouvoir faire le compte inverse pour rentrer. Et là aussi, on pourra localiser le robot. La métrique, on ne la connaît pas, puisqu'elle va se créer en fonction de la morphologie de l'environnement, mais peu importe. Et peu importe, c'est d'étape en étape qu'on sait que le robot sera sur le retour.
Il faut quand même attendre que les états transitoires soient passés. Ça
Oui.
doit être assez long, j'imagine, sans
Il y a
le...
ça et quelle perturbation le robot lui-même va avoir sur ce diagramme d'interférence. Il soit bien sur la bonne voie pour compter. Parce que... Il faut qu'il soit pareil. Il faut
Il a
qu'il ait la
remonté son
même
tour ou il a
capacité.
compté dans l'autre sens?
Oui, il faut qu'il ait la même capacité à se centrer dans un sens que dans l'autre. Il faut qu'il suive le même chemin. C'est vrai. Mais ça, c'est faisable. C'est faisable parce que l'environnement ne change pas. Moi, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est qu'on instrumente l'environnement avec des amers acoustiques. Et puis quand on a fini, les amers disparaissent. On débranche la. Oui.
Oh, c'est
On
intéressant.
débranche la source à l'origine de la création du diagramme d'interférence et tout redevient propre. En dehors de l'effet que ça peut avoir sur la vie cavernicole.
C'est ma question.
Voilà.
Ouais.
Donc il y a toute une étude à faire aussi avec des biologistes spéléo sur l'incidence de tout ça.
N'y a pas des courants?
Si. Si, parce que dans un réseau donné, et c'est tout le problème de la variabilité des conditions environnementales, tu as une source avec un débit donné. Quand tu as une grande salle, tu ne sens pas le courant. Mais quand tu as une étroiture dans laquelle il faut passer, là, tu as un courant très très fort, par lesquels les plongeurs ne peuvent pas passer. Donc le robot ne passera pas non plus, mis à moins de solutions d'actionnement dont je vais vous parler par la suite. Mais tu peux avoir de très grandes variations environnementales. Tu peux avoir aussi des variations dues à des intrusions salines. Mais dès que on va imaginer qu'on sait équilibrer nos robots en termes de flottabilité, mais dès que la salinité va changer, il va falloir dépenser l'intégralité de notre énergie à lutter contre la flottabilité du robot. Donc, il faut aussi des solutions de type ballast.
Mais du coup, même la propagation des ondes va changer dans les milieux qui changent de salinité, tout ça. Enfin, c'est plus compliqué de.
Oui, mais si ça reste un invariant, ça nous suffit. C'est ça l'idée, hein. Que ce soit un invariant d'environnement dans lequel faire du slam.
S'il n'y a pas de mouvement de masse.
Voilà, et c'est ce en quoi le robot peut modifier ce diagramme d'interférence.
Donc, le variant uniquement au cours d'une mission unique. La mission suivante, si les conditions ont changé, on ne pourra pas retrouver les invariants là.
Il n'y a pas besoin que, disons, la perturbation soit importante quand même en termes de puissance acoustique. Parce que tu disais, ça peut perturber, mais sans doute on sait mesurer quand même des crêtes comme ça. Et, pas énorme,
Oui,
ça va pas être
mais
1 mètre de tsunami.
en fait, tout dépend de la longueur d'onde et de la taille du robot.
Oui.
Voilà. C'est ça qu'il faut arriver à dimensionner.
Donc, tu penses à quelle longueur d'onde à peu près là-dessus? C'est de l'ordre du mètre, c'est ça?
Ah, bah, plus grand. Plus grand que le robot, parce que le robot, c'est déjà le. C'est
Donc,
déjà
oui,
le.
on peut
La,
tout
la, la...
perturber.
Ouais, c'est ça. Donc, tout le problème, mais enfin, c'est un problème évident qu'on a fini par résoudre, mais ça a été long. Déjà, le système de navigation de base identifie la centrale inertielle, identifie le DVL et le capteur de pression qui fasse qu'on arrive à reconstruire notre trajectoire. Enfin, pour construire une trajectoire là-dedans. Ensuite, la correction de cette trajectoire, c'est une autre question. Et ça, on a réussi à le valider et maintenant, on embarque ces systèmes-là. Ouais. Ouais.
Il n'y a pas de. C'est l'archi.
Ouais.
Parce que, quand tu vois, on aurait pu imaginer que tu veux mettre une centrale inertielle à s'améliorer.
Alors, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas une raison financière, une raison financière, parce que ce type de projet, ça se vend assez bien, on arrive à lever des fonds. Et on a une centrale Xplo à Fogg, là, qui attend d'être montée. La principale raison, c'est que les systèmes qu'on met en place et qu'on met dans les mains du plongeur, parce qu'on va voir qu'il y a les robots, on va équiper des scooters de plongeurs, sont des systèmes qui peuvent être abandonnés sur simple décision du plongeur. Et il ne faut pas que ça interfère dans sa décision d'abandonner le truc. Donc tu lui dis, écoute, tu as 250 000 euros dans les mains, tu es gentil, tu fais gaffe. Non, tu ne lui dis pas ça. Tu lui dis, eh ben, écoute, si tu dois l'abandonner, tu lâches et tu rentres, quoi. Et puis toi, tu as perdu tes 250 000 euros. Ben, voilà. Donc du low cost, ouais. Pour l'instant. Ensuite, quand on aura des solutions robustes, on pourra envisager de monter en qualité les capteurs. La chose intéressante sur laquelle on travaille avec Simon, c'est, vous avez compris qu'il y a, ah non, je ne vous l'ai pas dit, mais le système embarque un sonar profilométrique, c'est-à-dire un sonar qui mécaniquement, la tête du sonar est montée sur un moteur et il tourne comme ceci pour aller échantillonner l'environnement. Donc on a une espèce d'échantillonnage hélicoïdal, comme ça, au fur et à mesure que le robot avance. Et on a constaté que la mesure du cap était très perturbée par les moteurs du robot. On sait qu'on a cette perturbation-là. Donc, il y a une procédure de SLAM, surtout entre l'aller et le retour, qu'il va falloir effectuer. Et donc, là, c'est l'échantillonnage qu'on fait à l'aller. Mais l'avantage, c'est que l'échantillonnage qu'on va faire au retour avec ce système qui tourne dans l'autre sens fait qu'on s'assure qu'on va croiser l'échantillonnage à l'aller à chaque rotation deux fois. À chaque cycle, on va le croiser deux fois. Parce que le problème du SLAM, c'est qu'on va détecter des amers dans un sens. Et il faut s'assurer pour que le sang fonctionne qu'on va les redétecter au retour. Or, si on échantillonne en hélicoïdal sur un pas assez grand et qu'on refait cet échantillonnage et qu'il manque de peau, on retombe entre les échantillonnages précédents, on n'aura pas vu le même environnement. En fonction du pas, justement, et de la variabilité de l'environnement. Mais donc, là, c'est l'idée de réaliser un SLAM acoustique avec ce principe. C'est lent. Ben ouais, c'est lent. Là, celui qu'on a, c'est 2,5 secondes, 3 secondes pour faire un tour complet. Alors, il faut adapter la vitesse du sous-marin, mais il faut aussi nécessairement complémenter avec un DVL, avec une mesure de la vitesse. Parce que pour faire le centrage, il te faut un scan complet de l'environnement.
Parce qu'il est étonnant, c'est peut-être un peu copain, mais je m'aurais attendu à des variations de droite.
Ça, c'est la simulation, hein. C'est pour
D'accord.
illustrer le truc, hein.
D'accord.
Je vous montrerai après les données réelles. Mais...
Ok.
Et par exemple, tu fais une slam avec ce signal acoustique ou la localisation, c'est pas. Parce que du coup, quand tu avances avec ton truc qui scanne l'environnement, tu ne vois jamais ton environnement. Tu as juste une partie. T'as pas
Bah,
de
tu dresses la
recouvrement.
carte au début. Ah, tu n'as pas de recouvrement à l'aller. Et c'est
Ouais.
au retour.
Ouais.
À chaque fois que tu avances, tu as une fermeture de boucle.
D'accord. Et donc, du coup, il y a
Puisqu'on a le
juste une
même trajet.
cartographie quand tu avances.
Il y a une cartographie dont tu avances. Quand tu avances, dont tu sais qu'elle est perturbée, enfin, ta trajecto, elle est perturbée par tes moteurs. Et au retour, tu sais que tu as visité le même environnement. Et on voit clairement qu'on a 20 degrés de différence. Et que quand on l'a monté sur un scooter de plongeur, je vous l'indiquerai après. Je vais regarder.
Je m'attends
C'est
à
pas...
l'aller et pas à je crois qu'il y a encore 5 litres, je sais pas si tu
Ok.
veux.
Autre problématique, et ça, j'attends que les collègues qui font du machine learning viennent s'intéresser à ce problème-là. C'est cette question du SLAM. Imaginez, vous avez une grotte comme ça, le système s'y balade et vous avez cette trajectoire hélicoïdale. D'accord? Il se trouve qu'en chemin, ça c'est la trajectoire suivie par le robot, et on a cette évolution de la température, de la conductivité, et puis d'autres primitives. Ça peut être la section du conduit, la petite mesure dans cette région-là, le volume global, n'importe quoi, une évolution de primitives. Qu'on est capable de sentir, qu'on est capable de capter. Alors, se pose la question de la simplification de ce modèle-là et surtout de l'extraction des données saillantes. Si j'ai une stalactite au milieu et que c'est la seule que j'ai vue dans tout mon parcours, il ne faut pas que je l'efface de ma carte. Il faut même que j'essaie de la repérer autour. Sauf qu'à un moment donné, on peut imaginer des fonctionnels qui soient caractéristiques et saillants dans ce point-là, qui ne soient pas du tout des fonctionnels et qui aient un sens pour nous. Donc, faisons travailler la machine pour détecter le maximum de saillance au cours de la trajectoire et détecter cette fonctionnalité. Ça, c'est quelque chose qui est. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est taillé pour un problème d'apprentissage machine. Je vais avancer. Donc, les solutions visuelles, là, vous êtes dans le gouffre des grenouillères. Oui, on a une eau cristalline. Et là, on pourrait imaginer faire une reconstruction 3D en extrayant le contour du projecteur. On pourrait faire de la 3D avec ça. Clairement, dans cette eau limpide, sauf que bien sûr, elle peut devenir. Enfin, il y a des tas d'approches possibles. Il y a cette approche-là, il y a le flot optique dense, il y a l'extraction de ce halo noir qui va nous indiquer dans quelle direction il faut continuer l'exploration. Il y a plein de problématiques qui peuvent être résolues par une analyse de ces images-là. Et c'est tellement peu cher en termes de capteurs et en termes de traitement, parce que tous les algorithmes sont déjà en place, existent déjà, qu'on ne peut pas se passer de ces solutions-là. Les problématiques de trouver l'espace navigable, dans quelle direction continuer la mission aussi. D'autres approches qui consisteraient pour réaliser le centrage de manière automatique. On sait que dans une rivière, par exemple, on a un profil des vitesses des particules qui est beaucoup plus important au centre que sur les bords. Et si on est capable de sentir avec des capteurs de pression du différentiel de ces vitesses-là, dans une direction donnée, on pourrait imaginer pouvoir se centrer aussi dans le conduit 3D, sans avoir à reconstruire le modèle 3D, etc. Lococontrôle, ok, je vais avancer un peu plus vite. La question de la redondance d'actionnement, nécessairement, il nous faut des redondances d'actionnement dans ce milieu-là. Ça, c'est des données de Brugnera, ça, c'est des données réelles qu'on a acquises, et la capacité du système à se centrer dans le modèle qu'il est en train de construire. Ça aussi, il faut qu'on. Bon, on a des solutions algorithmiques, mais il y a encore des questions de traitement de données au rythme de la boucle de contrôle qu'il faut qu'on résolve. Les différents robots qu'on a pu construire pour illustrer les différentes problématiques. Bon, je passe sur le robot précédent, mais ça, c'est l'objet de l'ANR actuellement, c'est développer un robot de type polyarticulé, pas anguilliforme, parce qu'on aimerait quand même le doter de moteur comme ce système-là. Ça, c'est le système ILLUM du collègue norvégien. Et donc, voilà, avec une manœuvrabilité importante, mais surtout une forme qui lui permet de rentrer dans des étroitures qu'on va rencontrer. Le problème de la garantie de performance, ça va me prendre du temps. Je laisse tomber. On y reviendra plus tard. Ça aussi, ça c'est un problème taillé pour l'analyse par intervalle. Imaginez que le robot se balade dans ce cadre virtuel, hein, et que sa capacité à reconstruire sa trajectoire en XY soit comprise entre ces deux extrémas. Ça, c'est sa trajectoire réelle, et avec la dérive qu'il a sur la reconstruction de son odométrie, de son dead reckoning, eh bien on sait qu'il est entre là et là. Mais là, il est en train quand même de dresser cette cartographie de l'environnement avec des capteurs qui ont une. Avec ses capteurs, son capteur profilométrique qui a une erreur bornée. Donc, il est capable de construire ce modèle-là. Celui-ci est attaché à cette trajectoire extrême ici. Celui-là, à cette trajectoire extrême-là. Tant qu'on a un recouvrement entre les deux, on a une garantie au milieu. On a une garantie que là, on est en eau. Par contre, cette garantie, on va la perdre. Donc ça, on va la perdre là. Eh bien, c'est en ce point-là qu'il faut recalibrer la position du robot avec ses moyens magnétiques depuis la surface. Donc ça, c'est la région garantie, la pénombre et l'extérieur. Et donc, si on imagine dans une configuration de mission telle que celle-ci, donc on perd notre garantie ici, mais on arrive à localiser le système pour réduire l'incertitude et retrouver nos garanties. Et donc, avec cette approche-là, on sait à quel endroit il faut recaler le robot depuis la surface pour pouvoir réobtenir cette garantie-là. Et tout l'intérêt, c'est de reporter ce schéma en surface et de pouvoir garantir au foreur que s'il tape là, ben il va taper dans la veine. Nombreux ont été les forages qui ont tapé à côté. Bien sûr. Il y a toujours la possibilité d'embarquer une boucle magnétique au bout de la mission et d'attendre pour se faire repérer depuis la surface. Mais là, on a quand même une veine d'eau garantie pour l'écoulement de ce réseau-là. Donc, rapidement, quelques résultats de terrain. Ça a été le premier robot qu'on avait développé avec le sonar profilométrique qui est derrière, une caméra acoustique ici, et puis le DVL qui était en bas. Donc, la visite de Gronéras avec les plongeurs. Ça a été les images que je vous ai montrées au début du plongeur qui se baladait dans la cavité. Là, vous avez le sonar profilométrique qui scanne l'environnement autour et qui réalise en ligne cette cartographie-là. Donc, il était pas, là, il était complètement téléopéré. Il ne se centrait pas de manière autonome. Mais ça nous a permis d'acquérir les données pour pour aborder cette question-là. Le deuxième système qu'on a développé, le NavScout, reprend l'intégralité des capteurs du robot, mais est monté sur un compteur de plongeur. Ça permet, c'était aussi un des objectifs des projets qu'on a monté, c'est que les missions expérimentales sont lourdes en termes logistiques à monter, et on va dans des environnements où on va aller recueillir de la donnée qui est extrêmement importante pour les exploitants de ces sites-là. Donc chaque fois qu'on va sur le terrain, il faut arriver à fournir à l'exploitant une cartographie qui puisse l'intéresser. Donc en termes d'efficacité, c'était mieux d'aller acquérir la donnée par les plongeurs. Et grâce à ça, on a pu faire la cartographie de la fontaine de Nîmes. Donc c'est un réseau karstique avec on rentre par là, là c'est la galerie nord, là c'est la galerie est, qui part de Nîmes et qui remonte dans le plateau. On ne sait pas trop d'où elle vient. Pour l'instant, ça correspond aux zones qui ont déjà été cartographiées par les plongeurs, mais ça nous a permis de vérifier que ce n'était pas n'importe quoi. Mais on arrive à avoir les modèles 3D de la fontaine de Nîmes, comme celle de Sauve. On a aussi mis le NavScout dans celle de Sauve. Et puis le cas particulier des sources du Lèze, donc le Montpellier est dans le bassin versant entre le Vidourle et l'Hérault. Dans ce bassin versant, il y a la source du Lèze qui alimente Montpellier. Et ça, c'est la cartographie connue de Montpellier, des sources du Lèze, où l'usine de pompage a été installée en amont, là, vous le voyez, le pomme d'une plante. Et la particularité de ce site-là, est qu'il existerait un grand vide karstique en amont, assez proche de la chambre de pompage, dans lequel il pourrait être intéressant de venir pomper parce que ce grand réservoir permettrait d'atténuer les variations saisonnières. Parce que là, pour l'instant, cette source ne suffit plus en été. En été, il bascule sur le Baronne parce que ça ne suffit plus. Sauf que c'est tout un réseau hydraulique dont il faut s'inquiéter. Et toute la dynamique de ce réseau fait que si on pompe en amont de manière trop importante, on risque de faire remonter le biseau salé parce qu'on sait qu'il y a des communications avec la mer et venir polluer des pompages littoraux qui exploitent ce même réseau-là. Donc c'est vraiment une dynamique complète du système hydraulique et dont il faut se préoccuper. Ce n'est pas le cas des sources du Lèze, de BRGM, tenez, elles n'ont pas cette précision-là. Et donc l'objet du projet, c'était de venir cartographier la source et de venir cartographier cette grande cavité en amont. Cavité qui existe, on l'a repérée, on ne l'a pas encore cartographiée, ça devrait se faire dans les semaines ou dans les mois qui viennent. On aura repris la main sur la deuxième version de notre NavScout, notre système. Et puis d'autres résultats de terrain, donc il y en avait un précédent, et puis ça c'est un projet, c'est de venir faire une cartographie maintenant autonome sur un site assez facile, qui est la résurgence de Port-Biou. On a cette résurgence là sur 500 mètres, c'est assez plat, on connaît le diamètre depuis la mer. Et donc c'est remonter et faire cette cartographie-là. Il y a toute une histoire autour de. Il y a toute une problématique locale autour de cette résurgence-là. Et voilà, je voulais saluer Patrice Cabanel qui a fait sa dernière plongée sans revenir il y a 2 mois et qui c'est un plongeur de l'équipe, mais il n'est pas ensemble. Voilà, et enfin, il faut quand même parler de l'autre équipe qui travaille sur des problématiques similaires. C'est l'équipe de Bill Stone et du DepthX qui développe ce Sunfish qui permet de faire de manière autonome la cartographie d'un système, d'une grande cave comme ceci. Sauf que, voilà, c'est les Américains. Et donc, ils développent ce système-là, pas pour traiter la problématique de la ressource en eau, mais pour développer des technologies qui permettraient l'exploration des lunes de Jupiter. Bon, deux, trois bandes d'avance, voilà. Par contre, ils développent des technos qui sont franchement canons. Et voici la carto qu'ils arrivent à refaire de cette qualité-là. Et donc, ils bossent avec la NASA pour ces problématiques-là. Et voilà, je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci. Et un peu débordé, peut-être.
Il y avait des beaux films et tout, c'est beau. Hein.
Oui.
Des sources karstiques en Bretagne.
Là-bas. Non.
Il
n'y en a pas.
n'y
Et
en a pas six,
par
ça fait
contre, il y en a, y en a
excuse pour
partout
les
ailleurs.
Français.
C'est ici qu'il n'y en a pas?
Et je t'avoue
Non,
que
en Bretagne,
piloter
oui.
ce projet depuis la Bretagne, alors c'est compliqué pour assurer la cohérence territoriale, hein, ce qui n'était pas en Montpellier. Par contre, ça me permet de me situer depuis une région dans laquelle il y a beaucoup moins de pression sur ces questions-là. Dans la région de Montpellier, quand on a fait toutes ces expérimentations-là, il a fallu batailler à chaque fois avec toutes les institutions autour de l'eau. Et c'est un mapping qui est incroyable. Tu as les bassins versants, tu as les agences de l'eau, tu as le BRGM, etc. Tu as les instituts universitaires, les hydrogéologues, et tous sont en compétition. Ils se bouffent tous le nez. Et toi, tu arrives en tant que roboticien, tu ne connais pas ce mapping-là, ce qui permet d'ouvrir les portes, tu vois. Ça, c'est déjà bien, on a fait des expérimentations. Mais après, quand les habitudes sont prises, tu te reprends des volets de bois vert parce que tu n'as pas prévenu machin, t'as pas, etc., etc. Et tu te retrouves au sein d'une guerre territoriale à laquelle tu n'as rien à voir, quoi. Donc, piloter depuis la Bretagne, c'est une très bonne.
Alors, les éléments karstiques le plus proche de la Bretagne, c'est vrai.
Alors, il y a Angoulême, il y a le nord de la France. Alors, dans le nord de la France, il y a aussi d'anciennes mines inondées pour lesquelles ces technos-là pourraient être intéressantes. Tu as toute l'Alsace, tout l'est de la France. Tu as tout le bassin méditerranéen. Et puis, l'idée, c'est d'internationaliser cette action-là, monter des projets européens et puis d'avancer. On a identifié déjà pas mal de sites sur lesquels. Pardon?
L'Angleterre en face.
L'Angleterre, je ne sais pas. Possible. Possible. Voilà, on a identifié ces sites-là sur lesquels on a chaque fois le storytelling, on va dire, les enjeux locaux que ça représente. Là, il y a Barcelone. Barcelone, il y a une source qui s'appelle la Falconera, qui est une gigantesque source karstique, sauf qu'en amont de cette source, il y avait un garage qui a déversé des hydrocarbures pendant des années. Et la source est extrêmement polluée. Mais pareil pour Nîmes. Nîmes, il y a la décharge des Lozières qui est dans le bassin versant de la source, qui a pollué la source pendant des années. Et qui fait que toute cette eau-là, elle n'est plus exploitable. Elle n'est plus exploitable parce qu'elle n'a pas la qualité requise. Donc la Falconera, l'idée, ce serait de remonter en amont des zones de pollution, parce que la dépollution, c'est extrêmement compliqué dans cet environnement-là. Mais en amont de la zone de dépollution, faire un point GPS sur un endroit dont on sait que l'eau est saine, et dire, ben là, vous pouvez forer, quoi. Là, vous pouvez aller chercher de l'eau saine. C'est l'idée. Et puis d'autres sites en Allemagne, etc. Ça, voilà, c'est les discussions avec les plongeurs qui me disent, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Et avec la Croatie aussi. À Dubrovnik, c'est une situation assez similaire que celle de Montpellier. Ils exploitent une résurgence karstique, la source Ombla, et ils connaissent très peu la cartographie de la source. Et surtout, par où ça passe, est-ce qu'on va utiliser... On va monter des zones industrielles dans des zones qui sont potentiellement dans le bassin versant de la source. Tout ça, c'est des données extrêmement précieuses pour les gestionnaires, quoi. Voilà.
Et on imagine d'utiliser ces zones-là pour produire de l'énergie aussi, ou c'est pas imaginable faire, je pense, des barrages, des choses comme ça. Parce que tu disais qu'il y a des flux d'eau très importants et très.
Ouais, il faut qu'il soit régulier si tu installes une usine hydroéloélectrique. Mais pourquoi pas? Pourquoi
C'est
pas?
pas étudié, quoi.
Non, mais installer une hydrolienne. Alors le problème, c'est les crues soudaines qui peuvent. En général, tout ce que tu installes est chassé par la première crue. Voilà. Parce que ça peut être extrêmement puissant. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Dernière question, du coup, les grottes de Choron,
Oui. Les grottes de
Choron, dans
le
le
Choranche.
Vercors, pas du
dans le sud Vercors.
Si, dans le Vercors, c'est parti.
Et les grottes de Choron, qui sont immenses, avec des rivières, c'est connu, ça a été
Ouais.
ça pourrait être.
Bien sûr. Et puis, il faut se rendre compte que tout ce qu'on a identifié à sec, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas plus profond. Et donc, c'est ces gigantesques salles, tu peux les retrouver plus profond. Merci beaucoup.
Merci. C'est bon, je pense que je vais pas faire un exposé.
Bon, c'est moins scientifique que...
Ah non, c'est bon, ça pose plein de problèmes.
Ouais.
C'est une. En fait, c'est que maintenant, pour trouver les bonnes solutions,
Oui, mais
Disons, comme nous, on découvre pas, on découvre forcément, c'est un niveau qui n'est pas trop scientifique, mais c'est hyper intéressant.
Ouais, je comprends. Et le premier des défis qu'on a dû résoudre, c'était d'identifier l'équipe de plongeurs sûre avec laquelle aller bosser. Ça a été assez compliqué, mais finalement, on a trouvé des gens.